France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quand bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Une terre ocre, une végétation aride, un sol sec, caillouteux, un feu, quelques tapis autour et cette légère humidité rafraîchissant une atmosphère ayant avoisiné les 45 degrés. Nous étions quatre, un peu perdus sur une route désertique au nord du Burkina Faso. La nuit fut courte, un moment suspendu marqué par un silence jusqu'alors inconnu et un ciel étoilé jamais égalé. C'était un soir de bivouac, un soir de liberté. Et vous, êtes-vous adepte du bivouac? Quel plaisir trouvez-vous dans cette pratique? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le vendredi 25 juillet, vous écoutez France Inter, Grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand bien vous fasse, Eva Rock.
À 200 mètres au-dessus du lac, elle s'apprête à passer la nuit sur un portaledge solidement accroché à la roche.
On voit le vide, ça fait un peu peur, on s'y attend pas forcément, moi je pensais pas que ça allait être comme ça. Et là il y a une super belle vue, c'est incroyable.
Un face-à-face unique, comme un tableau au coucher du soleil.
Ouais, c'est tout orange, magnifique.
C'est irréel, ça paraît irréel.
Équipée d'un baudrier et d'un bon sac de couchage, les voiles prêtes.
On va surtout maintenant regarder les étoiles, parce que comme on est couché, il y en a.
Bonne nuit !
Et bonjour aussi quand même. Extrait d'un reportage diffusé sur TF1, c'était mercredi soir, où on découvrait Louane et sa grand-mère Sylvie, toutes les deux férues d'escalade. Et leur nuit, elles l'ont passée sur un portaledge, c'est-à-dire une tente de paroi, comme on dit en français. Un bivouac avec 200 mètres de vide sous leurs pieds, mais une vue sublimissime sur les montagnes environnantes. Les plaisirs du bivouac, nos quatre invités s'y adonnent aussi. Bonjour François Damilano.
Bonjour Eva.
Vous n'êtes pas présent dans ce studio, mais pour une bonne raison. Votre métier de guide de haute montagne vous retient dans les Alpes. Je crois que vous êtes au pied du Mont Blanc, c'est ça?
Et oui, on est en pleine saison et j'ai la chance d'habiter à Chamonix, face au Mont Blanc.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, François. Vous venez de publier Les 14-8000 de Sophie Lavaux, un ouvrage coécrit avec l'alpiniste et paru aux éditions Glénat. Et vous êtes également réalisateur. On vous doit le film, entre autres, Sophie Lavaux, Le Dernier Sommet. Bonjour Clara Ferrand.
Bonjour.
Autrice et photographe, les Alpes sont aussi votre terrain de jeu, enfin un de vos terrains de jeu. Vous publiez un livre très pratique, absolument essentiel quand on veut se lancer dans le bivouac, Rando Bivouac dans les Alpes, qui est paru également chez Glénat. Et puis on peut vous suivre, Clara, grâce à votre blog, je vais y arriver, wildroad.fr et à votre compte Instagram aussi. Alors le compte Instagram, c'est bien Clara Photomania, Photomania. Photomania, il me manquait un O. Bonjour Laurent Tillon.
Bonjour.
Ingénieur forestier à l'Office National des Forêts, vous êtes aussi l'auteur de deux livres remarquables, Être un chêne, sous l'écorce de Quercus, et Chronique d'une vie à l'envers, Une nuit avec les chauves-souris, deux ouvrages publiés aux éditions Actes Sud, dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Et vous êtes fatigué, Laurent, même crevé, mais pour une bonne raison aussi,
oui,
parce que vous venez d'où là?
J'ai semi-bivouaqué, on va dire ça comme ça, depuis mardi de la semaine dernière, toutes les nuits pour étudier les chauves-souris de la forêt de Rambouillet.
Et vous m'avez dit que vous avez fini à 4h du matin là, c'est
on
ça
a fini à 3h du matin et je me suis levé à 7h pour être avec vous sur le plateau.
Et merci infiniment et nous ne pouvions pas faire cette émission sans vous. Daniel Fievé, bonjour.
Bonjour Eva, bonjour tout le monde.
Animateur, producteur de l'émission Le Temps d'un Bivouac qui est diffusée tout l'été à 14h. Merci infiniment de nous accompagner. Alors comment ne pas commencer cette émission par une expérience du sensible que nous chérissons avec l'équipe de Grand Bien vous fasse. François Damilano, on va essayer d'imaginer, vous qui connaissez les bivouacs en paroi, si vous vous imaginez par exemple dans les Grandes Jorasses, vous avez installé votre portaledge, est-ce que vous pourriez nous décrire la scène, mais en utilisant uniquement votre toucher?
Alors effectivement, dans les voies très difficiles, on pourrait utiliser un portaledge, donc c'est petite surface et tentes de paroi suspendues, qui n'ont pas d'ailleurs nécessairement de tente, c'est peut-être juste
petit matelas en fait. Hein, ouais.
Une petite plateforme perpendiculairement installée à la paroi. En fait, c'est une expérience du vide et c'est une expérience de l'espace. Et c'est ça qui est très intéressant dans le bivouac. Alors pour nous, les alpinistes, quand on parle de bivouac, on peut revenir à ça, c'est évidemment dormir à la belle étoile. Hein. C'est pas dormir dans une cabane ou ce n'est pas dormir dans une tente, ce n'est pas faire du camping. C'est vraiment dormir sous la voûte céleste. Et Et ce qui est particulier en paroi, c'est que l'on va rester accroché au piton, au moyen d'assurage, pour ne pas risquer de basculer. Et un porte-allège, bah, c'est pas très large, mais c'est relativement confortable, parce qu'on va pouvoir s'allonger à deux personnes. Mais le plus souvent, on va juste s'installer sur une toute petite vire rocheuse, celle que l'on a réussi à atteindre le soir tombant, et on va se contenter de cet espace. Et c'est cette expérience particulière de réussir à apprendre à être confortable avec l'inconfort qui est particulier au bivouac.
Et oui, je pense qu'on va, ça va être le mot d'ordre, un peu le mantra de cette émission, l'inconfort, mais qu'il faut dompter quelque part. Clara Ferrand, on va rester dans les Alpes que vous aimez, si vous l'acceptez. Nous sommes en fin de journée, vous êtes en train d'installer votre bivouac. Qu'est-ce qui se passe sous vos yeux? Qu'est-ce que vous aimez observer par-dessus tout?
Alors, ce que j'aime observer en tant que photographe, c'est la lumière qui décline, qui réchauffe encore mon visage et en même temps l'air qui se rafraîchit, la rosée, l'humidité qui commence à inonder le parterre. Et pour moi, il y a la tente derrière qui est mon abri et qui est mon refuge, ma petite maison portative, et le duvet qui commence à gonfler parce que je viens de le sortir du sac et qui va être mon petit cocon pour la nuit.
Votre cocon. On va parler de cocon aussi avec vous, Laurent Tillion, mais il ressemble à autre chose qu'à un sac de couchage. Mais si on part avec vous dans la forêt de Rambouillet, où vous étiez encore il y a quelques heures, vous vous apprêtez à bivouaquer au pied du chêne, par exemple, que vous aimez tant. Quelles sont les odeurs qui vous reviennent instantanément à l'esprit ?
Ouais, j'adore aller m'installer, d'ailleurs, quand la nuit est presque déjà tombée ou en train de tomber. Et j'adore ça parce que, en fait, je ne suis plus du tout sensible à ce qui m'entoure au niveau visuel, mais au bruit et aux odeurs. Et en particulier, une odeur, comme je le fais essentiellement en forêt, de par ma pratique du bivouac, j'ai toujours tous les sens qui sont ouverts, et en particulier sur les odeurs qui remontent du sol. En particulier celle de l'octénol, qui est une petite molécule issue des champignons qui dégradent le sol et qui font remonter cette odeur un peu de pourriture. Pour moi, c'est une forme de sensation de vivant qui vient du sol, et la vie du sol va se traduire par la vie de la forêt et la vie de tout ce qui m'entoure. Et ça, c'est un peu comme une Madeleine de Proust pour moi. Depuis que je suis tout petit, j'adore cette odeur parce qu'elle traduit la vie.
Vous êtes vivant parmi le vivant, c'est ça un peu, hein ?
C'est exactement ça.
C'est ça. Daniel Fievé, vous, l'homme de radio,
oui.
Quels sont les sons qui ressurgissent quand vous pensez, alors, notamment au bivouac de votre enfance ?
Oui, mais c'est ça. Moi, les premiers souvenirs de bivouac, après, il y en a eu d'autres, hein, dans la nature et plus lointain, mais c'est ceux dans la prairie, derrière la maison de famille de mes parents. Je préférais, quand j'allais les voir, déjà petit, mais même plus grand étudiant, planter ma tente. Et les sons, ils sont très précis, hein. Il y a un grand peuplier dans cette prairie avec un feuillage, les toutes petites feuilles du peuplier, et dès que le vent s'engouffre dans ses branches, ça fait un son de cascade, comme de l'eau qui coule. Il y a déjà ce son que j'adorais. Il y a le au soir couchant, alors c'est un oiseau, je pense que c'est la tourterelle turque, hein, qui fait ce chant-là, là. Ouh, ouh, ouh. C'est un bonheur d'entendre.
Je savais pas que vous faisiez les oiseaux comme ça.
Moi non plus, je pense que c'est très approximatif, mais Laurent a la gentillesse d'acquiescer comme s'il avait reconnu. C'est très sympa. Et puis il y a le bruit aussi. Alors c'est ça, selon le temps qu'il fait pendant ce bivouac, le bruit des gouttelettes qui tambourinent sur la tente, sur les parois de la tente. Tout ça, c'est un vrai plaisir. On se sent aventurier. On a 10 ans, on est sous sa tente, on est un aventurier, et on est un aventurier pour le reste de sa vie.
Laurent Tillion.
J'adore ces bruits, notamment parce que moi, ça m'offre la sensation de reconstituer mon environnement et d'imaginer un peu les volumes qui m'entourent, justement, notamment la pluie qui tombe sur les feuilles des arbres.
Ouais.
On a l'impression d'imaginer les volumes de la forêt. C'est assez fantastique.
Bon, vous venez tous les quatre de justifier le titre de cette émission, les plaisirs du bivouac, évidemment. Daniel Fievé, à propos de titre, comment est né celui de votre émission, Le temps d'un bivouac ?
On voulait un mot qui symbolise le voyage, la proximité avec la nature, la convivialité aussi. C'est vrai qu'un bivouac, ça peut se faire seul, mais moi, en tout cas, les bivouacs que je pratique souvent, c'est en groupe. Et puis, il y a ce côté, on a marché, on a galopé et on se retrouve autour du feu. C'est le moment où on prend soin de soi, on prend soin des autres, on s'écoute, on se raconte. On ne regarde pas son portable pendant les bivouacs. On revient sur soi, on raconte ses voyages précédents. Il y avait ce moment de partage, de convivialité. Il y avait cette proximité avec la nature. Il y avait
tout
l'idée
était là,
du bivouac.
Tout était voilà. Là. Mais j'aime bien l'idée du voyage qui ne nous vient pas forcément à l'esprit instantanément, je trouve, parce que le bivouac, c'est plutôt mais l'aventure dans la nature. Mais c'est vrai que le terme voyage ne me venait pas. Mais je pense que c'est aussi à la fois un voyage intérieur et un voyage voyage, un réel voyage, il y a une notion qui me semble assez importante dans le bivouac, qui est le temps, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est assez paradoxal. Il faut gérer son temps, vous le disiez, il faut arriver avant que la nuit tombe, donc vraiment prévoir ce moment-là. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un lâcher-prise sur la notion de temps. Clara Ferrand, qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour moi, il y a quand même une notion que j'aborde dans mon livre, qui est de respecter un peu les réglementations et notamment les temps d'installation du bivouac et d'enlever son campement le lendemain matin. Généralement, dans nos montagnes françaises, quand on est dans un parc, c'est 19h, à partir de 19h qu'on installe la tente et on l'enlève avant 9h. Sinon, ça devient du camping, comme disait François.
Ouais.
Et sinon, il y a le temps de la rando. Et ça, ce qui est super, c'est qu'en bivouac, on peut décider de marcher plus ou moins parce que là où on va s'installer, c'est là où on aura décidé d'arrêter de marcher.
Oui. Alors, vous donnez des exemples très précis et des consignes très précises. Quand on décide de s'arrêter pour planter sa tente, par exemple, en randonnée, vous dites qu'il faut faire attention. On s'arrête, par exemple, à un endroit qui a déjà été piétiné, où il y a déjà eu une tente qui s'est installée, pour ne pas dégrader l'environnement.
Oui, voilà, c'est mieux de ne pas multiplier les traces humaines dans l'environnement et plutôt de s'installer dans un endroit qui a déjà été utilisé, on va dire, par d'autres personnes avant nous, pour justement, oui, en effet, éviter d'impacter encore plus l'environnement.
François Damilano, cette notion du temps, comment vous la percevez ? Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours le nez rivé sur votre montre ou au contraire, vous lâchez prise totalement ?
Alors déjà, quand j'ai le privilège de bivouaquer, je me souviens justement que c'est un privilège. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais on parle bien entendu du fait que nous, on a le choix de dormir dehors, qui habituellement dormons dans un lit ou sous un toit. Et voilà. Et c'est pas une pirouette que de dire que souvent je pense aux sans-abri qu'on peut croiser, où là évidemment l'expérience de vie est totalement différente. Après, une fois de plus, quand on est dans la haute montagne, il y a deux possibilités pour nous. Ou bien c'est parce qu'on a choisi comme étape dans l'ascension de dormir à un moment précis. Et puis, il peut arriver aussi que l'on se fasse prendre par la tombée du jour. On n'a pas eu le temps de sortir au sommet, on s'est fait rattraper par l'horaire. Et là, il va falloir improviser sa vie, sa nuit. J'allais dire sa vie, c'était un joli lapsus.
Ah oui,
hein.
Très joli.
Il va falloir improviser sa nuit pour bien survivre aux quelques heures froides que l'on a devant nous. Donc un bivouac prévu, on va plutôt essayer de trouver un endroit relativement confortable où on va pouvoir s'allonger face au couchant pour avoir le soleil le plus tard possible dans une météo favorable. Un bivouac imprévu, on a plutôt intérêt d'avoir cultivé ses qualités d'endormissement ou cultiver en fait sa conversation. La conversation aide beaucoup à tenir un bivouac un peu long en haute montagne lorsqu'il fait froid.
Et c'est toujours cette notion de confort et d'inconfort dont vous parliez depuis le début de l'émission. Laurent Tillion, il y a une chose dont vous ne vous séparez pas quand vous partez en bivouac. Alors, ce n'est pas la tente de Clara Ferrand, mais vous, c'est le hamac, c'est ça ? Qu'est-ce que ça symbolise, le hamac, pour vous ?
Pour moi, le hamac, c'est la liberté. Alors, c'est la liberté, si ce n'est que j'aurais du mal à le mettre en place dans les espaces dans lesquels François vient s'installer.
Oui.
Parce que c'est...
Vous avez besoin d'arbres, voilà.
Il me faut deux arbres, mais l'intérêt du hamac, c'est que moi j'ai l'impression de m'envelopper vraiment, d'en faire comme une seconde peau, un petit peu, alors pour vraiment les spécialistes, mais un petit peu comme le fait le petit rhinolophe, qui est une toute petite chauve-souris de 6 grammes, qui quand il s'endort, s'enveloppe dans ses ailes. Moi ça me donne un petit peu cette sensation-là, c'est de m'envelopper, et puis de me mettre en dehors du sol. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois quand même des petits animaux qui passent. Il y a parfois des petites surprises. Les renards aiment bien venir fouiller dans les sacs, aiment bien, pourquoi pas, embarquer une chaussure. Ça arrive quand même assez régulièrement, ou les sangliers, notamment en forêt. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est deux arbres. Je place mon hamac. Et là, pour le coup, je piétine pas le sol. Quand je repars, on voit même pas que je suis passé là. Et une fois que je suis installé, du coup, là, vous parliez des temps tout à l'heure, et j'aimais bien la notion du temps telle que Clara vous l'avait abordée, parce qu'il y a vraiment ce temps de la préparation. Et par contre, une fois que je suis installé dans mon hamac...
Le temps ne compte plus, ouais.
Le temps ne compte plus, on est totalement dépendant de ce qui se passe. Et puis, avec François, vous parliez de confort et d'inconfort. Ça peut être quand même assez inconfortable.
C'est ce que j'allais vous demander.
Et donc, on ne dort pas forcément très bien, ce qui fait que le temps s'étire selon une échelle qui est totalement différente de celle du confort qu'on a quand on est chez soi.
Vous dormez par tranche, c'est-à-dire, je ne sais pas, 30 minutes, vous vous réveillez, puis vous rendormez, c'est ça à peu près ?
Ça dépend si on a trouvé la bonne position, ouais. Ça dépend si on a bien fait attention à l'humidité qu'évoquait Clara tout à l'heure, et qu'on ne se fait pas prendre par le froid qui vient par en dessous. Parce que c'est le défaut du hamac, c'est que si le froid, notamment l'humidité, vient du sol, qu'elle est très forte et qu'on n'a pas pensé à mettre, par exemple, une couverture de survie pour protéger entre le hamac et le duvet, là, le froid nous gagne et on n'arrive quasiment plus à se rendormir, c'est l'horreur. Mais en même temps, c'est un plaisir intense que de vivre ça.
Ça donne envie, vraiment, ça donne envie.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Il y a un petit problème. C'est complet.
Oh non,
oh non.
D'habitude, c'est vide, il n'y a pas un chat, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a.
Oh,
c'est bon, là, tu trouves?
Oh, ça pue là-dedans, ça me dégoûte. Ça ressemble à quelque chose?
C'est pas idéal, le trou.
C'est peut-être l'autre côté, le bout pointu?
Je sais pas. Ah oui, c'est possible, ouais. Oui, il n'y a plus de piqué.
T'en prends un des cours.
Bah, il n'y en a plus non plus.
T'en prends un de l'intérieur. T'as jamais planté de tente ou quoi?
Quand il n'y a plus de place au refuge, vive la tente. C'est un extrait du film Les Randonneurs, un film de Philippe Harel de 1997. Nous évoquons les plaisirs du bivouac ce matin avec nos invités. François Damilano, guide haute montagne. Clara Ferrand, autrice et photographe. Laurent Tillon, ingénieur forestier. Et notre confrère Daniel Fievé. On reçoit beaucoup de messages de nos auditeurs. Je voudrais vous en lire un de Luc qui nous dit « Je pratique le bivouac une à trois fois par mois toute l'année. Dans les collines d'Aix-en-Provence, je pars avec un ami vers 21h. Et on rentre à 6h pour ne pas perturber la vie familiale. Ce sont des moments hors du temps, des ciels magnifiques et la simplicité de se poser où on veut en espérant avoir la chance de voir quelques animaux au réveil. Et à chaque bivouac, j'ai l'impression de rentrer de vacances, nous dit-il. Tout ça en une seule nuit, c'est très bien. François Damilano, vous parliez de confort et d'inconfort. J'imagine qu'on se forge aussi une expérience au fil des bivouacs. Aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez dormir n'importe où et dans des conditions extrêmes ?
Savoir dormir en bivouac, savoir dormir dehors, c'est une force. C'est probablement grâce à cette expérience du bivouac que le cristallier Jacques Balma a réussi la première ascension du Mont Blanc en 1786. Si je peux me permettre de vous raconter cette petite anecdote. En fait, lors d'une tentative précédente, il avait été retenu par la nuit sur un glacier à plus de 4000 mètres d'altitude. Cette fois-ci, avec ses compagnons, il n'avait pas réussi à atteindre le sommet. Ses compagnons étaient redescendus. On ne sait pas exactement si volontairement ou pas il avait tenté cette expérience. Toujours est-il qu'il a passé une nuit sur un glacier auprès du Mont Blanc et il en a survécu. Il faut se souvenir que pour les habitants de Chamonix, pour les habitants des Hautes-Vallées, les montagnes étaient des lieux maudits. Les glaciers renfermaient des démons, les âmes errantes. Donc il y avait cette superstition qui empêchait les premiers alpinistes de tenter des grandes montagnes parce qu'ils étaient pris par le temps. Ils n'avaient pas le temps d'aller au sommet et de revenir sans dormir dehors. Grâce à cette expérience, grâce au fait qu'il avait survécu à ses croyances et ses superstitions, il savait que les heures pouvaient filer et c'était plus vraiment un problème d'arriver tard au sommet. Et en fait, deux mois plus tard, au mois d'août 1786, en compagnie du docteur Paccard, le médecin de Chamonix, il sera donc le premier homme à atteindre la cime du Mont Blanc. Et le bivouac est une force.
Le bivouac est une force, on l'a bien entendu. Clara Ferrand, est-ce que vous avez fait des erreurs dans vos premiers bivouacs?
Oh oui, j'en ai fait. De pas repérer de lieu assez tôt et de se retrouver à ne pas trouver d'endroit plat pour poser la tente. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'on a une pratique très différente entre les trois invités.
Bien sûr.
Moi, je suis plutôt dans la montagne accessible randonneur. François plutôt dans l'alpinisme haute montagne et Laurent plutôt dans le milieu forestier. Donc en fait, c'est trois environnements de bivouac très différents aussi. Et du coup, les erreurs que j'ai eues, c'est plus très particulièrement autour du terrain, pas avoir de terrain. Et ensuite, après, Il m'est arrivé d'en faire quelques-unes au niveau de la faune, de pas assez me méfier de renards notamment, comme on en parlait.
Non, mais il vous est arrivé un truc fou et vous êtes fait mordre par un renard.
Oui, exactement. Oui, par un renard dans le Mercantour, mais ça, on va dire que c'est les actions humaines qui amènent à ce type de dérive chez les animaux aussi. Le fait qu'un renard soit habitué à la proximité avec l'humain, c'est pas normal et c'est souvent dû au fait que n'importe qui va aller nourrir un petit animal pour pouvoir s'en approcher. C'est aussi le cas des marmottes. Et ce qui est un désastre pour la faune, parce que c'est pas leur nourriture habituelle. Et du coup, elles attrapent des maladies, elles sont en très mauvaise santé, les marmottes, mais aussi les renards. Et les renards deviennent agressifs ou très chapardeurs. Et là, en l'occurrence, il a essayé de mordre ma tante à un endroit random qui se trouve être ma tête pour attraper de la nourriture, alors qu'il n'y en avait pas du tout à cet endroit, quoi.
Et ça vous a pas vacciné contre la rendez-vous?
On continue à en faire. Les bivouacs suivants ont été un peu plus, un peu moins sereins.
Alors c'est vrai qu'on garde le sourire, mais il y a beaucoup de consignes de sécurité que vous rappelez dans votre livre. Alors pour ce qui est des randonnées en montagne, enfin celles que vous pratiquez, pas celles de François Damilano, il y a des consignes de sécurité quand on est aussi en forêt. Laurent Tillon. C'est vrai qu'on évoquait l'idée du feu de camp. Alors moi, je le disais dans mon introduction et Daniel aussi dans ses souvenirs d'enfance. En ce moment, le feu, on oublie, on barre ce mot totalement de notre pratique et de notre vocabulaire même, je dirais.
Et même depuis quelques années, ouais. même la cigarette. 90% des feux de forêt aujourd'hui démarrent d'une origine humaine. Pour vous donner des chiffres, hein, rien que sur cette année, on est à 900 départs de feux déclarés en forêt. 6500 hectares ont brûlé, donc ça commence à pas devenir une paille. Et un petit peu partout, jusqu'en Bretagne, malgré la météo un peu pluvieuse du nord de la France, là, ça a quand même brûlé. Ça brûle toute l'année, même au mois de janvier. Donc on peut être tenté de faire un petit feu de camp parce qu'on est en plein hiver. Faut surtout maintenant proscrire ce type de pratique. Donc à la limite, si vous avez besoin de vous réchauffer, moi ma pratique c'est je prends ma thermos d'eau chaude et puis ben, soit je me fais une tisane, soit je me fais des nouilles chinoises que je réchauffe comme ça, que je me prépare comme ça pour manger chaud. Mais maintenant, faut proscrire le feu, le réchaud, quoi que ce soit qui peut produire une énergie avec de la chaleur, c'est terminé ça.
Clara Ferrand.
Et je pense que souvent les personnes qui vont faire du bivouac, c'est pour l'imaginaire. Pour oui. L'imaginaire de l'aventure, l'imaginaire des séries télé américaines qu'on a vu, le bivouac, enfin, le camping, c'est avec un feu de camp. Alors qu'en fait, en France, c'est pas une pratique qui est déjà beaucoup autorisé parce que souvent on est dans des lieux réglementés, donc ça il faut bien le prendre en compte, et que c'est pas uniquement pour se réchauffer, enfin c'est pas uniquement le potentiel de déclarer un feu qui est dérangeant dans le fait de faire un feu, mais c'est aussi le dérangement de la faune, l'impact sur le
oui, avant
sol,
même l'incendie, c'est tous les impacts qu'il y a, oui, bien sûr.
C'est 10 ans, ouais. En fait, de régénérescence du sol quand on a fait un feu à un endroit. 10 ans, en fait, ouais. C'est énorme. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on n'a pas besoin d'un feu pour passer un bon moment en montagne, en fait.
Ouais.
Juste, déjà, un feu, ça nous permet de moins observer la Voie lactée. Donc, en plus, enlevons les feux de notre imaginaire, en fait.
Voilà, ça, c'est la première consigne qu'il fallait absolument rappeler. Vous racontiez cette histoire avec le renard, Clara Ferrand. Et ça me suscite aussi une autre interrogation. Est-ce que vous avez déjà eu peur en bivouac, Laurent Tillon ? Est-ce que ce mot peur fait partie de votre vocabulaire ou pas du tout ?
Jamais. Enfin, sauf dans un cas, un bivouac en forêt guyanaise, dans le cadre d'une mission scientifique, et parce qu'on tournait autour de filets qu'on avait posés pour inventorier des chauves-souris en forêt guyanaise, sur le plateau de Lucifer des Coups des Coups, au moment de la Toussaint. Et donc, à l'étude des chauves-souris, en période d'Halloween, c'était quand même assez fun, en forêt guyanaise. Et en milieu de nuit, c'était mon quart de suivi des filets. Et au bout de ma ligne de filet, deux yeux à 1 mètre de hauteur, séparés de 15 centimètres, me regardent à travers un buisson. C'était soit un puma, soit un jaguar. Et là, pour le coup, oui. Ça nous remet à notre place.
Oui, c'est ça.
Clairement. Et là, j'étais vraiment pas serein. Je ne me suis pas retourné pour pas montrer ma nuque, puisque chez les grands prédateurs, notamment les félins, montrer la nuque est signe de fuite. Donc, je l'ai gardé en visuel. J'ai reculé, tout doucement. C'est la vraie seule fois où j'ai eu peur. Après, on a parfois des petits sursauts, notamment quand un sanglier s'approche.
Oui,
là,
j'imagine.
Pour le coup, on est un peu surpris. L'avantage du hamac, c'est qu'on se met en hauteur, voilà. Donc du coup, normalement, il n'y a pas de problème.
A priori,
il
ne vient pas vous embêter.
Ah oui, pour le puma, ça Daniel marche, le hamac, vraiment, vous êtes sûr du conseil là?
Alors là, non, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de solution. Ouais.
Vous savez quoi faire devant un puma, Daniel?
Alors oui, non, moi, je sais qu'il ne faut pas fuir, à part devant les éléphants. Il n'y a pas longtemps, il y a une chercheuse qui travaillait sur les gorilles qui nous disait, face à un gorille énervé, on fait face, on ne fuit pas, pour lui montrer qu'on n'a pas peur. Pour les éléphants, là, par contre, on se carapate, vaut mieux fuir.
C'était une émission pratique, oui, face aux animaux sauvages. Daniel Fievé, on évoquait tout à l'heure les bivouacs de votre enfance. Vous avez continué à l'adolescence. À chaque fois, c'était une pratique avec les copains, copines.
Oui, moi,
il y a cette notion de groupe qui était importante.
C'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai bivouaqué, je ne suis pas un pur et dur comme nos invités qui font ça tout seul au fond des bois ou dans la montagne. C'est souvent avec quelques amis. Et j'ai des souvenirs, notamment étudiants. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'argent, on a envie de voyager. On prend le billet Interrail qui permet pendant 15 jours de faire plusieurs pays d'Europe avec un seul billet. Et puis, une fois qu'on arrive à destination, en l'occurrence sur les plages de Grèce, on dort à la Belle Étoile. Et c'est les nuits, ça coûte rien. On a le ciel étoilé, le ressac de la mer pour nous bercer. C'est quelque chose que je ne me suis jamais expliqué. Quand on est dans un refuge et qu'il y a des voisins qui ronflent, on trouve ça insupportable. Alors que quand on est sur la plage et qu'on a le ressac de la mer, qui est quand même un bruit très puissant, ça fait beaucoup de bruit, la mer.
Ça couvre les ronflements des autres.
Surtout, on trouve ça joli et on est bercé et on n'en veut pas à la mer de faire tout ce boucan.
Non, mais cette notion de coût des vacances, moi, elle me paraît extrêmement importante. Quand on veut faire du bivouac, c'est aussi une solution. Alors, pour partir en voyage, vous aviez raison, mais à faible coût. François Damilano, on dit souvent que c'est une expérience du dépouillement, qu'il faut savoir se débarrasser du superflu quand on part en bivouac. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, parce que, vous savez, le poids du sac, c'est le poids de la peur.
Ouais.
Donc, pour partir sur un bivouac, si l'on veut absolument optimiser le confort, on risque d'avoir un sac importable. Bon, faut se départir du superflu et en fait, apprendre à dormir avec un tout petit matelas qui va isoler du sol, avec un sac de couchage pas nécessairement très épais et apprendre malgré tout à conserver sa chaleur. Le bivouac est une expérience du dépouillement, bien évidemment.
Et est-ce que vous avez déjà eu peur en bivouac?
Alors, c'est pas le bivouac qui fait peur, c'est le lendemain.
C'est-à-dire...
En montagne, on peut se retrouver dans des situations où, effectivement, c'est la journée du lendemain, c'est le temps qu'il va faire le lendemain, c'est les problématiques dans lesquelles on se trouve au moment du bivouac. L'ascension du lendemain peut être angoissante. Donc, bien évidemment, quand on est pris par la nuit, qu'il fait froid, que l'on n'est pas très bien installé, on peut se mettre à gamberger sur le lendemain. Et en plus, dans le bivouac, on n'est pas justement protégé de l'univers. On fait partie de l'univers.
Oui.
Une petite toile de tente, c'est une manière de reconstituer une maison, en quelque sorte.
La maison portative dont parlait Clara, oui, oui.
Voilà, on va être isolé un peu du froid, un peu du vent, et on va être isolé également du paysage. En bivouac, on est totalement immergé au paysage. Donc, lorsque l'on est en paroi ou sur des très hautes montagnes, ce peut être extrêmement impressionnant, bien évidemment. Mais c'est ça qui est fort aussi.
Mais oui, évidemment. Daniel Fievé.
Oui, parce que François, là, il le dit pas, mais il a été dans les endroits les plus dangereux, sur les parois de l'Everest, avec ces bivouacs. On est sur des campements incroyables avec des risques d'avalanche. Et du coup, vous avez parfois été pris hein, dans ce type d'avalanche. Quand on dort comme ça, même dans cette petite protection de la tente, mais avec ce risque de la montagne, ça fait pas peur? On n'a pas cette épée de Damoclès?
Il peut arriver effectivement qu'un camp d'altitude ne soit pas implanté nécessairement au meilleur endroit. On se retrouve en pleine pente, si le mauvais temps arrive, qu'il neige énormément, qu'il y a beaucoup de vent. Le vent est un handicap très puissant dans les montagnes himalayennes. Effectivement, on peut avoir peur et on a peur à raison. Il est arrivé des accidents à certains alpinistes dans des pentes comme ça, sur des camps d'altitude. Donc là, c'est... Il faut aller chercher sa force, je dirais, psychologique en soi pour réussir à s'isoler et à se concentrer plutôt sur son sommeil et sur des images positives que de laisser le cerveau se mettre à gamberger sur les dangers potentiels. Et des fois, quand ça devient insupportable, il faut sortir de la tente.
Et oui.
Il faut aller voir ce qui se passe dehors. Il faut se remettre en mouvement. Et ça m'est arrivé, en particulier avec Sophie Lavaux, lors de notre dernière expédition au Nanga Parbat, là, pendant le tournage du film Le Dernier Sommet. En redescendant du sommet, on s'est arrêté au camp d'altitude supérieure pour se reposer quelques heures, et en fait la tempête s'est amplifiée, la neige s'est accumulée et poussé les tentes vers le vide, et l'on a décidé à ce moment-là de sortir de la tente et de se remettre en route alors qu'il était 2 heures du matin en pleine nuit.
C'est incroyable, on a envie de vous écouter jusqu'à la fin, à la fin de la journée, enfin à la fin de la nuit, même, enfin plusieurs jours quoi, voilà. Moi ça me fascine et ça me passionne ces récits parce que j'ai l'impression de rien faire de ma vie à côté de vous, pour dire ce qui est vraiment, avoir peur de rentrer dans un studio de radio, c'est complètement abscon. Daniel Piévé, on va vous laisser filer.
Merci,
parce que
sympa.
Vous avez une émission à préparer. Qui est votre invité cet après-midi?
Éric Orsenna, on va aller le long des fleuves du monde.
Ouais, on vous retrouve donc tout l'été, c'est à 14h pour le temps d'un bivouac. Merci infiniment de nous avoir accompagnés
ce matin.
C'était
un plaisir.
Merci.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Moi, je suis napolitain. Donc, pour moi, la montagne, c'est un volcan. C'est le Vésuve. Où m'a amené mon père pour la première fois. Mais je suis devenu un pratiquant d'alpinisme, d'escalade. Et donc, je me suis appliqué à cette surface. Il n'y a aucune profondeur dans la montagne, il n'y a que de la surface. Et c'est une surface qui est surgie du fond de la mer. Ces montagnes étaient poussées vers le haut par une force souterraine. Et c'est la manifestation la plus puissante du fait que la terre veut bondir, veut monter, plutôt que s'effondrer.
La voix de l'écrivain italien Eri De Luca, féru d'escalade et qui raconte si bien son rapport à la montagne. Nous sommes donc dans les plus hauts sommets des Alpes, mais aussi dans la forêt de Rambouillet ce matin, dans Grand Bien vous fasse. Nous pourrions être en plein milieu du désert, car le bivouac n'a pas de frontières. Les plaisirs du bivouac, c'est notre thème du jour. Daniel Piévé vient de nous raconter ses bivouacs entre amis. Clara Ferrand, vous aimez partir seule?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est un moment avec moi-même que je m'accorde et c'est un luxe.
C'est un luxe, hein. Vous le vivez vraiment comme ça?
Oui, c'est vraiment un petit rituel de faire la première grosse rando de la saison estivale toute seule pour me retester, me rechallenger et prendre du temps pour moi.
Laurent Tillion, vous testez les deux configurations. Soit vous partez seul, soit vous êtes en groupe, notamment là, comme vous l'avez fait pour l'étude des chauves-souris. C'est un plaisir qui est différent en fait à chaque fois?
C'est très très différent. Je rejoins totalement ce que vient de dire Clara à propos du fait de faire des bivouacs tout seul, parce que c'est un chemin intérieur aussi. Notamment, moi, c'est souvent à la fin de l'hiver que j'aime bien aller bivouaquer tout seul. Ça me permet de me repréparer, de me reconnecter à la nature et à la forêt avant d'entamer ma session de terrain, ma saison d'inventaire de biodiversité. Et il y a une forme de cheminement intérieur. Par moments, quand je me pose plein de questions sur la vie, sur moi, aller en bivouac, regarder les étoiles, laisser passer les chauves-souris au-dessus de ma tête, à travers la frondaison des arbres, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, partager aussi certains moments de bivouac, ouais, avec des personnes, c'est très important. Et là, je vois par exemple, cette semaine, j'étais avec donc Émilie et Jean-Christophe, notamment parce que, en particulier hier soir, Jean-Christophe était tout en haut dans un arbre à 17 mètres de hauteur, pour installer dans son hamac, pour attraper les chauves-souris qu'il nous envoyait ensuite au sol et qu'on examinait. Et là aussi, c'était une forme de partage, mais aussi de cheminement intérieur, parce qu'il fallait faire silence. Et par les regards qu'on pouvait échanger, par le petit cliquetis du mousqueton de Jean-Christophe là-haut, il nous envoyait des messages. Et quelque part, c'était une manière de communier avec la forêt qui nous entourait.
François Damilano, quoi de mieux qu'une nuit à la belle étoile? Vous l'avez souvent expérimenté, notamment avec Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une dimension philosophique à ce moment-là, dans le bivouac? Vous posez aussi des questions existentielles comme Laurent Tillion?
Est-ce que je peux vous citer les mots de l'alpiniste écrivain Gaston Rébuffat?
Bien sûr.
Dans son livre Étoiles et tempêtes, qui est un grand classique de la littérature alpine d'après-guerre. Gaston Rébuffat écrivait sur le bivouac « L'homme qui bivouaque lie sa chair à la chair de la montagne. Sur son lit de pierre, adossé à la grande muraille, face au vide, il regarde le soleil périr à l'horizon, tandis qu'à l'opposé, le ciel déroule sa pèlerine d'étoiles. Grand voyage sous les diamants épars. tout est dit.
Mais ouais, pèlerine d'étoiles, c'est magnifique. Et vous avez vraiment, vous, ce que racontait Laurent sur le, et Clara aussi, sur le fait de se reconnecter à la fois à la nature et à soi-même, vous le ressentez vous aussi à chaque fois que vous tentez une expérience de bivouac ?
En alpinisme, nous sommes obligatoirement connectés aux éléments et le bivouac renforce effectivement ouais. Cette sensation. Et puis, lorsqu'on est en montagne, on est éloigné des sources de pollution lumineuse. Donc, on a une clarté du ciel, on a une voie lactée qui est extrêmement puissante. Et là, on se sent comme aspiré par la voûte céleste. Et du coup, effectivement, c'est là qu'on peut rejoindre ce que vous évoquiez tout à l'heure. Que c'est une expérience philosophique. Et effectivement, au sommet des Grandes Jorasses, lorsque nous avions bivouaqué avec Étienne Klein, c'était doublement passionnant, parce qu'en plus, bien évidemment, Étienne nous comptait les étoiles et le ciel.
Eh oui, j'imagine bien. Laurent Tillion.
Ouais, je trouve que dans la pratique du bivouac, comme le dit François, il y a cette chose très importante d'y aller de manière épurée. Et le fait de passer la nuit dans un milieu totalement naturel où on peut se sentir légèrement vulnérable simplement parce qu'on ne voit plus les choses, on doit être attentif aux autres sensations, aux autres sens que l'on peut avoir, et ça nous amène de toute façon à avoir une réflexion à la fois sur nous-mêmes, sur la place qu'on prend aussi dans le milieu, dans l'univers, et notamment ça fait référence à l'émission que vous avez eue mardi sur l'éco-anxiété, sur l'importance
comment
d'être
aller bien dans un monde qui va mal.
Voilà, ouais. Et d'être sensible à notre environnement, la pratique du bivouac est assez idéale pour vraiment avoir ce sentiment de se reconnecter à ce qui nous entoure et avoir conscience des enjeux.
On a beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices comme Coralie qui nous dit « Le bivouac est pour moi un besoin de liberté. Je pars en trekking seul quelques jours sur les chemins non fréquentés et j'adore cette liberté. C'est mon moment à moi dans la nature pour recharger mes batteries. » Clara Ferrand, vous avez une jolie formule dans votre livre. Vous dites « On est un invité dans la nature ». Est-ce que le bivouac a changé votre... et les randonnées en général ont changé votre rapport au vivant et à la nature?
Oui, je pense que les premières fois où j'allais bivouaquer, je voyais ça un peu comme... Enfin, c'est pas que j'en avais conscience, mais comme une consommation de ce que je pouvais aller trouver en nature. Aller voir les animaux, ouais. Aller faire un sommet, etc. Faire un peu une checklist des choses que j'ai envie de voir et de faire pendant ce bivouac. Et en fait, au fur et à mesure... cette liberté-là qu'on a, on se rend compte que c'est une liberté qui est négociée avec la nature. Et que si on veut garder cette liberté-là, il faut qu'on respecte et qu'on prenne vraiment soin de ce qui nous entoure.
Ouais, vous êtes d'accord, Laurent Tillion, je vous voyais acquiescer.
Oui, totalement. En fait, c'est vraiment un moyen de se reconnecter au vivant. Et puis, à un moment donné, le fait d'être posé, ben pour le coup, on est totalement sur un site donc, qu'on partage avec les autres vivants qui nous ouais. entourent. L'expérience de Clara avec le renard qui vient lui gratouiller la tête.
Croquer la tête, pas gratouiller.
Ouais, mais c'était
pas
assez.
On s'en rappelle aussi.
C'était une manière sympathique d'aborder le cas du renard. Mais je crois qu'en fait, quand on est en bivouac, à un moment donné, on offre l'opportunité aux autres vivants qui nous entourent, aux vivants non humains, de venir à nous. Pourquoi ? Parce qu'on est posé, et là, pour le coup, on est nous-mêmes en situation un peu vulnérable, et de nous immiscer complètement dans le milieu naturel, comme peuvent le faire les autres vivants. Et ça change complètement le rapport qu'on peut avoir avec les vivants qui nous entourent, parce qu'il n'y a plus de rapport de force. On est authentique, en fait. Comme dirait François Sarano quand il va dans l'océan nager avec les cachalots ouais. ou les requins, on se met tout nu, on est nu quand on est en bivouac quelque part, même si on est protégé par notre tente ou par le hamac, simplement parce qu'on se met complètement à disposition des autres vivants et on s'offre à eux. C'est eux qui peuvent venir vers nous pour complètement se reconnecter.
Clara Ferrand.
D'ailleurs, pour revenir à la notion de peur, du fait d'aller bivouaquer solo, on me demande souvent si j'ai peur du loup.
Ouais. Et vous n'avez pas peur du loup, hein.
Eh ben non, parce que le loup, il observe beaucoup. Mais il vient pas au contact. En tout cas, il va pas venir au contact s'il sent qu'il peut être vu. Donc en fait, il viendra jamais nous croquer comme un renard.
Mais oui, en revanche, on vous demande jamais est-ce que t'as peur du renard. Alors ouais, que c'est franchement, ça. C'était peut-être la question à vous poser. Je voudrais qu'on donne la parole à Lisette qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Lisette.
Oui, bonjour.
Vous avez l'habitude de bivouaquer ou pas?
Oui, oui, et puis avec les enfants, de longues années, nous avons bivouaqué au bord du Gardon, du Verdon. Nous dormions à même le sol avec duvet,
oui,
ou parfois sous la tente. C'était très variable. Et simplement, avec la législation, nous n'avons plus pu faire des feux. Puis finalement, ils ont grandi. Et je suis passée au cyclotourisme avec un hamac.
Ah, c'est génial. Donc, vous êtes à vélo, vous faites votre trajet de randonnée à vélo et vous vous arrêtez dès que vous avez deux arbres comme Laurent Tillion pour poser votre hamac, c'est ça ?
Voilà, et au départ, il était orange, puis il est devenu vert par discrétion.
Ouais.
Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait agréable. Et il y a également un autre élément dont j'ai parlé à la personne hors antenne, c'est que pour moi, le rapport à l'extérieur et à la nuit, à la belle étoile, est plus sécure que l'intérieur d'une maison.
Ah, c'est vrai, vous vous sentez plus en sécurité à l'extérieur ?
Tout à fait, parce que l'intérieur de la maison, pour moi, donc, a été particulièrement agressif et violent. Donc, j'ai, depuis l'enfance, trouvé beaucoup de ressources dans les nuits à l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui me réconforte et me rassure bien davantage.
Et vous continuez donc à faire vos bivouacs et votre cyclo-rando ?
Tout à fait. Dernièrement, la semaine dernière encore, j'ai acheté une petite tente anti-moustique, toute transparente en tulle. Et avec mon petit-fils, nous avons dormi à la belle étoile.
Oh, formidable.
Et sans, bien sûr, l'inconfort des moustiques.
Et sans l'inconfort des moustiques,
oui. C'est quelque chose auquel je les initie parce qu'ils ont un petit peu peur du noir, les petits-fils. Et je leur ai appris, donc, de par mon expérience, que la nuit et le noir pouvaient être tout à fait réconfortants.
Mais voilà, c'est un peu une école de la vie, finalement, le bivouac. Merci infiniment, Lisette, de nous avoir appelé au standard de France Inter. Laurent Tillion, est-ce que vous, les expériences de bivouac que vous menez, notamment dans la forêt, vous amènent une forme de bien-être absolument unique que vous ne trouvez nulle part ailleurs ? Encore aujourd'hui, vous qui avez l'habitude de le faire.
Oui, tout le temps. Et c'est vrai que même les moments dans lesquels j'éprouve un petit peu d'anxiété ou alors plein de réflexions qui peuvent être un peu négatives, le fait d'aller en forêt, ça me réconcilie toujours avec quelque chose. Et puis, bien souvent d'ailleurs, du coup, j'y vais entier avec mes émotions, un petit peu comme je l'évoquais tout à l'heure, authentique. Et le fait d'être vraiment authentique, on s'offre aussi aux autres vivants, et c'est là qu'il peut se passer des choses, et notamment des rencontres qui vous bouleversent et qui vous remettent un peu sur le droit chemin des bonnes pensées positives. Moi, il m'en est arrivé une, par exemple, avec un chevreuil en pleine nuit, si je peux me permettre de vous la raconter en 30 secondes.
Bien sûr.
J'avais posé mon hamac en entrant dans la forêt, la nuit était tombée, et donc je me suis installé entre deux arbres. Un chevreuil a aboyé à l'horizon un petit peu plus loin, une chouette hulotte m'a accueilli au moment où je posais mon hamac, je me suis endormi là, et à un moment donné, dans la nuit, alors l'inconfort du hamac, c'est qu'à un moment donné, si vous vous mettez un peu sur le côté, votre nez est contre la toile et du coup vous entendez respirer par moment. Moi, ça a été le cas et ça m'a réveillé et je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même, je respire fort. J'ai bloqué ma respiration et j'ai entendu de l'autre côté de la toile la continuité de cette respiration. En baissant le tissu, de l'autre côté se trouvait un chevreuil qui était en train de me respirer en se demandant ce que c'était que cet animal-là.
Incroyable.
Et là, j'ai remonté le tissu, je l'ai laissé continuer, il a eu un petit moment de recul, et puis il a poursuivi sa respiration. Et je ne sais pas après ce qui s'est passé, je me suis rendormi.
Mais il s'est peut-être endormi avec vous, vous n'en êtes même pas aperçu.
Exactement, bah écoutez, on a communié.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Laurent Tillion, pour que le bivouac soit un immense plaisir, il faut respecter des consignes. On en a un peu parlé au début de cette émission, mais vous vouliez revenir sur ce point précisément.
Oui, le bivouac, moi, quand je l'ai pratiqué il y a 20 ans, on pouvait y aller comme ça, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il faut le préparer un minimum. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une nouvelle ère, l'ère du changement climatique, qui impose de regarder notamment le bulletin météo avant de partir. Parce qu'il ne faut pas être pris par un orage, par exemple. Notamment, en zone de montagne, on peut être pris dans une coulée de boue. Ça peut monter très, très, très vite et donc il faut y être attentif. Mais il y a aussi le risque lié aux incendies, ce qui impose aujourd'hui, absolument partout en France, de se signaler. Alors, il y a des arrêtés municipaux ou des arrêtés préfectoraux qui peuvent être pris un peu à la dernière minute pour fermer les forêts en cas de risque d'incendie sévère. Et ça arrive partout. Au mois de juin, on y a eu droit dans plus de la moitié des forêts françaises. Et puis, en plus de ça, il faut prévenir le propriétaire. Soit le propriétaire privé, soit le propriétaire propriétaire ou le représentant du propriétaire qui est l'ONF dans les forêts publiques, pour la simple et bonne raison qu'en cas de départ d'incendie, il faut qu'on sache que vous êtes là, de manière à prévenir les pompiers. Aujourd'hui, ça peut démarrer même en pleine nuit, un incendie. Donc si nous, on ne sait pas que vous êtes présent, au moment où on doit envoyer les pompiers pour sécuriser les zones et puis réussir à circonscrire l'incendie, on n'est pas en mesure de savoir que vous êtes là et donc de vous protéger.
Donc c'est très, très important de rappeler ça, et très important de rappeler aussi la gestion des déchets quand on fait du bivouac, Clara Ferrand. Vous avez beaucoup de pages dans votre livre sur ce point précisément.
Oui, exactement, dans la partie guide pratique, il y a vraiment beaucoup de conseils sur prendre un petit sac poubelle pour remporter tous ces déchets et déjà partir sans beaucoup de déchets, on enlève tous les emballages et tout ce qui est déchets naturels, comme les trognons de pommes, les pots de bananes, on les remporte avec soi, surtout on les jette pas, les coquilles d'œufs, on les jette pas dans la nature parce que ça ne fait pas partie de l'environnement naturel dans lequel on se trouve. Donc si on jette un pommier dans un environnement forestier où il n'y a pas de pommier, et ben peut-être qu'un pommier va pousser en fait. Donc on ne jette pas de trognons de pommes, surtout à 2000 mètres d'altitude, ça ne se décompose pas comme ça se décompose chez nous dans le compost. Donc on remporte tout. Et concernant l'hygiène, surtout on ne se baigne pas dans les lacs parce que le biotope est fragile, on est enduit de crème solaire, on ne va pas dans les lacs avec nos corps plein de crème solaire et plein de produits de beauté hyper chimiques.
Et vous donnez plein de conseils pour éviter justement ces erreurs dans votre livre, d'où l'utilité de partir avec dans son sac à dos. Laurent Tillon.
Et puis enfin, aller dans les zones de bivouac autorisées, il en existe, donc regardez sur la carte et surtout ne pas aller dans les milieux naturels protégés pour lesquels il y a une réglementation qui interdit le bivouac.
En quelques mots, vous savez, chaque jour on termine l'émission avec vos coups de cœur, c'est-à-dire ce qui nous permet de poursuivre la réflexion sur le thème de l'émission. François Damilano, est-ce que ça, vous avez envie de nous conseiller quelque chose ?
Qu'est-ce que je peux vous conseiller ? C'est difficile parce que les conseils vont avoir tendance à agglutiner les gens dans les mêmes endroits et on sait que les zones de tension sont les zones évidemment qu'il faut protéger. J'aurais tendance à répéter que le bivouac relativement imprévu, c'est-à-dire au cours d'une ascension, au cours d'une randonnée, sera probablement celui qui va fournir les plus grands souvenirs.
On est bien d'accord. Laurent Tillon, je crois qu'il y a une chanson que vous aimez beaucoup. Hein.
Laura Cahen et la chanson Nuit Forêt qui est exceptionnelle.
Pourquoi vous l'aimez cette chanson ?
Parce qu'elle est pleine de douceur, elle est pleine d'émotions et moi j'ai l'impression de retrouver ce que je vis quand je vais bivouaquer en forêt.
Merci, merci infiniment à tous les trois, François Damilano, Clara Ferrand et Laurent Tillon. Merci pour votre partage de ces plaisirs du bivouac. Toutes les références de vos ouvrages respectifs sont à retrouver sur la page de l'émission via l'application de Radio France. Le mois de juillet se termine. Permettez-moi de remercier très chaleureusement toute l'équipe. Valérie Ayestara et Claire Destacan et Maria Paquet se sont relayées à la réalisation. Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Filliol et Elina Garcia m'ont apporté une aide précieuse. Sans vous toutes, pas d'émission. Je mesure la chance que j'ai de vous avoir à mes côtés. Et au standard, un immense merci aussi à Simon, Awa et Erin qui ont transmis tous vos messages. Un immense merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont réagi pendant ce mois de juillet. Sans vous aussi, il n'y a pas d'émission. Et en régie ce matin, il y avait Nicolas Delmas et David Diboué-Black. Merci à tous les deux.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.